au plus profond des ondes. Histoire mystérieuse et extraordinaire, nouvelles et fictions imaginaires, enquête sur d'étranges affaires. Bonsoir, bonsoir. Voici notre programme. Le mystère des tours rondes d'Irlande, et Kezako. Puis une nouvelle de Roald Dahl, Coup de gigot. Et on commence en musique avec Téléphone, argent trop cher.
Je suis pas là pour ça.
Le mystère des tours rondes d'Irlande. Alors vous savez, on trouve de multiples monuments de par le monde dont la fonction nous reste à ce jour encore inexpliquée. Bon, on va citer des classiques. Il en va ainsi des pyramides, où qu'elles soient d'ailleurs, des nouraghi en Sardaigne, des brocs en Écosse, des cécis à Pentelleria, des dolmens dans toute l'Europe, des stupas en Asie, etc. Il est très difficile de dater la plupart de ces monuments, car ils sont faits de pierre et l'homme n'y a jamais habité ni stocké de la nourriture. Sans reste organique, gravure aux références écrites de l'époque, l'historien se perd en conjectures et les théories fleurissent. Mais il y a une catégorie proche de nous dont peu de personnes parlent et qui garde encore son secret 1000 ans après sa construction. Il s'agit des tours rondes d'Irlande. Par exemple, comme la tour d'Ardmore, dans la province de Munster. Alors, ces tours auraient été construites au Moyen-Âge, entre l'an 900 et l'an 1100, mais il n'existe aucun document de l'époque parlant de leur construction. On en dénombre encore 80, et on les trouve au milieu d'anciens cimetières de monastères. La particularité, au milieu des cimetières. Tiens, j'ai dit. À l'époque, les monastères étaient tous construits en bois, et il ne reste donc rien aujourd'hui de ces constructions. Les cimetières étaient exclusivement réservés aux moines du monastère, et il est étonnant de constater qu'à l'époque, ces moines déployaient des efforts conséquents pour construire ces tours. Ils ne se construisaient que des habitations en bois, auxquelles les envahisseurs de l'époque pouvaient facilement mettre le feu. Donc une espèce de paradoxe mystérieux déjà. Alors évidemment, vous en doutez, il y a de multiples explications. La première explication qui vient à l'esprit est celle de refuge, pour justement permettre à ces moines attaqués de se réfugier. Mais alors, pourquoi les avoir construites au milieu du cimetière, à l'écart du monastère même ? On note bien que leur entrée est située entre 3 et 8 mètres de hauteur, mais l'espace intérieur est si restreint qu'on ne saurait y mettre plus de 6 personnes. Alors d'autres ont imaginé que les moines y cachaient leurs richesses, mais là aussi, l'organisation intérieure n'est vraiment pas optimisée pour cela. Haute en moyenne de 36 mètres et large de 5,50 mètres, l'épaisseur des murs ne laissait que peu d'espace intérieur. Pourtant, c'est ce que les syndicats d'initiatives locaux s'efforcent de faire croire aux touristes, modifiant volontairement les dimensions intérieures de la tour et l'échelle des personnages représentés sur les panneaux explicatifs. Sur ces panneaux touristiques, au lieu de 1,30 m, les murs ne font plus que 40 cm et les personnages ne font plus que 90 cm comparés au diamètre extérieur des tours, donnant ainsi l'impression que les tours disposaient de plus d'espace intérieur pour stocker les richesses des moines. Mais il n'en est rien. Cela démontre l'embarras des autorités locales et autres historiens pour trouver une explication à ces tours qui ont, à l'époque, marqué par centaines le paysage irlandais. C'est d'ailleurs un mystère national. En 1830, l'Académie royale d'Irlande lança un concours à qui donnerait la véritable explication des tours rondes. Un certain Henry O'Brien rentra une étude très fouillée de ces constructions intitulée « Les tours rondes d'Irlande » ou « Les mystères de la franc-maçonnerie, du sabbaïsme et du bouddhisme ». En résumé, l'étude conclut à un symbole phallique, symbole omniprésent d'après l'auteur dans la quasi-totalité des religions depuis des temps très anciens. Malheureusement, le concours fut tronqué, sans doute pour ne pas offusquer ces honorables membres de l'Académie, et le prix passa sous le nez d'Henry O'Brien. Ceci pour dire qu'il y a près de 200 ans, l'homme se demandait déjà à quoi pouvaient bien servir ces tours. Auparavant, il se contentait de répéter des explications entendues de ci, de là, sans exercer son esprit critique, ni avoir observé ces tours d'une manière plus attentive. C'est ainsi que les explications les plus diverses furent émises. On a donc d'abord parlé de refuge, de tour de garde, de clocher, et de manière plus intéressante, de lanterne des morts. Et arrêtons-nous un instant d'ailleurs sur cette hypothèse. L'idée et de placer une lanterne au sommet de la tour afin que la nuit, les âmes errantes, n'ayant pas compris qu'elles étaient mortes, distinguent au loin cette lumière et s'en rapprochent jusqu'à comprendre que cette lumière se trouve au-dessus d'un cimetière. À eux dès lors de comprendre qu'ils sont morts et doivent rejoindre le paradis. La raison pour laquelle cette idée est à présent à prendre au sérieux est qu'elle est très répandue. On trouve ainsi en France plus d'une centaine de lanternes des morts construites à partir du Xe siècle. Les constructions, dans ce cas, sont plus modestes et beaucoup plus variées dans leur forme et leur dimension. La seule qui ressemble de près au Tour d'Irlande est celle de Saint-Pierre-d'Oléron, mais celle-ci de construction beaucoup plus récente, et on peut penser qu'on s'est inspiré des Tours d'Irlande en se basant sur le fait qu'elles étaient des lanternes des morts. Ceci a entraîné une confusion regrettable par la suite, car il a été bien démontré que les Tours d'Irlande n'ont pas abrité de lanternes ni de cloches, et ne servaient pas non plus à faire le guet. Bizarre. Une autre hypothèse bien défendue est celle donc du symbole phallique lié au bouddhisme qui, à l'époque, est venu faire des adeptes jusqu'en Irlande, sans le sait un peu moins. Mais alors pourquoi au milieu du cimetière et pourquoi si peu de ressemblance avec un phallus? Diverses autres théories liées à des multiples envahisseurs que l'Irlande a connus existent, mais ne sont pas sérieusement étayées et présentent un caractère plutôt fantaisiste. Alors attaquons-nous maintenant à l'hypothèse la plus récente, celle d'une possible connexion avec des champs d'énergie. Le spécialiste des réseaux vibratoires liés au monument est Georges Pratt, et il a consacré dans son livre « L'architecture cosmique » un excellent chapitre aux tours rondes d'Irlande. La piste géobiologique. Le problème donc avec Georges Pratt est tout ce qui touche à la géobiologie, c'est que toute cette science, entre guillemets, nécessite toujours un être humain comme appareil de mesure. En gros, c'est le principe de la baguette de sourcier, mais on peut utiliser n'importe quoi. Il existe des appareils électroniques, mais il est reconnu que la mesure fonctionne aussi bien en utilisant uniquement le plan imprimé sur papier de l'appareil. Georges a parcouru le monde à la recherche de monuments anciens et explique constater que les vibrations sont plus intenses là où ces monuments ont été construits. Il a catalogué plusieurs fréquences vibratoires liées à différents minerais, et le plus fréquent est le nickel, ce qui a donné lieu au réseau Hartmann. Au plus rare est le minerai, au plus espacé le quadrillage du réseau. En général, le maillage est parallèle à celui de la latitude et longitude, mais parfois il est incliné de 45 degrés. Georges Pratt prétend que bon nombre de monuments anciens sont construits là où plusieurs réseaux se croisent. Il explique aussi pouvoir mesurer des vibrations provenant d'entités défuntes ou mythiques. Ainsi, lorsqu'il se trouve devant une tour ronde d'Irlande, il explique mesurer de bas en haut les vibrations de moines de l'époque, puis d'un saint et enfin du Christ. Selon lui, les tours servaient de cheminée pour envoyer dans l'atmosphère les vibrations des moines enterrés à leur base, afin de participer à une œuvre cosmique. Bon, on est en plein ésotérisme. Poursuivons notre raisonnement. Mais Georges a analysé d'autres particularités de ces tours. Et ces constatations sont très intéressantes. Chaque tour varie en hauteur, et la hauteur de la porte d'entrée varie aussi étrangement selon la tour, entre 0 et 8 mètres de haut. Il a aussi constaté un rapport quasi immuable entre la distance séparant le haut de la porte avec le haut de la tour et la circonférence de la tour à hauteur du haut de la porte. Ce rapport est toujours le même et correspond étrangement, au fameux nombre d'or. Vous savez, le nombre d'or, 1 plus racine de 5 sur 2, ce qui nous fait 1,6180 pour faire simple. Et c'est le seul nombre complexe qu'on retrouve dans la nature à une infinité d'endroits. Manifestement, l'ADN présent dans la faune et la flore utilise très souvent cette suite pour générer ces éléments. Ce nombre d'or est utilisé pour créer de multiples formes et proportions. Autre particularité, ce nombre est basé sur la suite de Fibonacci, où chaque membre est égal à la somme des deux précédents. Par exemple, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, et ainsi de suite. Ce nombre d'or s'obtient en divisant n'importe quel membre de cette suite par son précédent. Ainsi, divisons 377 par 233 et cela nous donne, pif, le nombre d'or, 1,6180, ce qui est une très bonne approximation. Au plus on avance dans la suite, au plus le nombre d'or devient précis. Intéressant. Pour certains, ce serait peut-être une antenne radio géante. Sous la porte d'entrée, la tour est remplie par du remblai. À la base de la tour, il n'y a pas d'interruption entre le remblai et le terrain, comme s'il était nécessaire que la terre communique directement jusqu'au niveau de la porte. Les pierres utilisées pour construire les tours ont aussi une forte teneur en quartz, comme le granit et le basalte, roches innées et métamorphiques, ce qui leur donne des propriétés diélectriques intéressantes. Et selon Georges, toujours notre ami Georges, ces différentes caractéristiques permettent aux tours de canaliser l'énergie des moines. Certains parlent de cheminées cosmotelluriques qui évacuent à hauteur de l'énergie venant du tréfonds de la Terre. Mais d'après Georges, ce n'est pas le cas ici. Le photographe Gilbert de Cossec a mis au point une méthode de photographie mettant en évidence, selon son hypothèse, l'effet cosmotellurique des menhirs et autres objets pointus. Sa technique s'appuie sur l'effet Kirlian et fait apparaître une aura pointant verticalement au-dessus des menhirs. Des photos consécutives montrent un phénomène pulsant. Son livre, Le souffle du menhir, vous renseignera plus sur sa théorie. Mais c'est une théorie. Une autre personne à avoir abordé les tours rondes d'Irlande est Phillips Callahan, entomologiste, ornithologue, philosophe et explorateur. Il a écrit plus de 100 articles scientifiques. Il a étudié les propriétés de réflexion des ondes radar et de la lumière infrarouge des antennes des mythes et a bizarrement trouvé une analogie avec les tours rondes d'Irlande. Et il n'en fallait pas plus pour qu'il imagine un rôle radioélectrique et réfléchissant aux fameuses tours. Il a aussi observé, de manière anecdotique, une étrange ressemblance entre la distribution géographique des tours en Irlande et une carte du ciel, un peu comme les pyramides d'Égypte et la constellation d'Orion. Callahan a construit des tours miniatures, dotées des mêmes effets radioélectriques et optiques que les tours d'Irlande, et a semé des radis tout autour. Il avait des tours témoins dépourvues de ses propriétés. Il a observé que les radis situés près des tours, mimant les tours irlandaises, poussaient notablement mieux, et ceci en épousant une forme de trèfle, un peu comme les courbes d'un champ magnétique d'aimant. Nous avons longuement interrogé aussi John Kankembos, un fermier américain de Virginie, qui eut dans les années 90 connaissance des recherches de Callahan, et entrepris de construire des tours de 2 mètres de haut dotées des mêmes propriétés, puis de planter ces tours dans ses champs. Il chercha toutefois à positionner ces tours au-dessus de sources souterraines ou de croisements de réseaux Hartmann. Les cultivateurs ou agronomes Alwyn Pillsworth en Angleterre, Jerry Frandestine aux USA et Gary de Piazzi en Australie ont également répliqué et prétendument validé le phénomène en construisant ces tours, dénommées maintenant par cette communauté des tours paramagnétiques. En 2000, la journaliste spécialisée en géomagnétisme, Alana Moore, enquêta auprès de Gary de Piazzi et découvrit que le système ne marchait pas comme attendu. Elle identifia 8 causes possibles. Mauvais emplacement en fonction des objets proches, mauvais emplacement en fonction des réseaux géobiologiques, ou des courants souterrains, manque de motivation du fermier, sous-sol géologique inapproprié, effet négatif d'arbres malades, amplifié, clôture métallique proche, et enfin des questions éthiques relatives à la modification du champ énergétique du voisinage ou d'autres plantations. John Kakenbos explique qu'il pourrait exister un circuit complet d'échange d'ions négatifs et positifs passant dans le sol, les tours et le ciel, mais admet qu'il est finalement très difficile de démontrer de manière claire tout ce processus. Les paramètres semblent très ténus et difficiles à contrôler pour autant qu'ils soient effectifs. Avec le temps, il n'est plus certain de rien. Que ce soit en allant sur place ou en utilisant Google Earth, il n'est pas possible d'observer une différence de végétation entre les zones proches éloignées des tours rondes d'Irlande. Pour parler de manière plus concrète, un des possibles effets serait par une sorte d'acupuncture du sol de permettre à l'eau de mieux percoler dans celui-ci et de moins s'évaporer. Il est vrai qu'il existe d'anciens savoirs liés à l'électricité de surface des sols cultivés, impliquant par exemple d'utiliser des socles de charrue faits d'un métal spécial. Cette charge électrique permettrait aussi d'améliorer la vie des organismes présents dans le sol et dès lors la qualité de ce sol pour les cultures. Cette pratique relève de la biodynamie inventée par Rudolf Steiner. On sait aujourd'hui que la salamandre, qui est le seul être vivant connu capable de faire repousser l'entièreté de ses membres, parvient à ce résultat grâce à une modification très locale du potentiel électrique. Nous avons de toute façon encore énormément de découvertes à faire dans ce domaine. Rien n'est sûr. Mais on parle aussi, au sujet de ces tours, d'un possible effet sur la météorologie. Ces tours seraient-elles capables d'influencer le climat ou plus précisément la pluviosité? Certaines traces anciennes en Égypte et chez les druides laissent à penser que les anciens savaient comment provoquer la pluie au moyen de constructions bien précises. Don José Carmen García Martínez, l'homme qui parle aux plantes, est un Mexicain très connu pour les tailles gigantesques atteintes par ses légumes. Pour sa publicité, il dit parler aux plantes, mais il avoue très humblement utiliser de vieilles recettes aztèques pour obtenir ses cultures extraordinaires. Il a manifestement aussi retrouvé comment provoquer la pluie, ou plutôt modifier le climat localement et à long terme, en plantant certaines essences d'arbres selon un tracé géométrique particulier. Les tours, par l'envoi d'ions dans le ciel, influencerait la charge électrique des couches nuageuses et rendrait les pluies plus fréquentes, mais moins fortes. Elles attireraient aussi les éclairs, épargnant dès lors les plantations de leur effet néfaste. Mais les paramètres relevés par Callahan, comme le souci de relier le plancher meuble à la terre ferme, celui de respecter des proportions précises incluant le nombre d'or, celui d'utiliser des pierres dotées de caractéristiques paramagnétiques, sont autant d'éléments portant à croire en un rôle réel et très spécifique de ces tours, malheureusement oubliés de nos jours. Aucune des pistes envisagées pendant 200 ans ne semble être la bonne. Même la piste de l'amélioration des cultures pourrait ne pas être la bonne. En effet, que penser dès lors du fait que toutes les tours d'Irlande sont situées au milieu des cimetières monastiques et que ces moines ne cultivaient que de petits jardins à légumes? Mais sur les faits recherchés, on reste en pleine conjoncture. Était-ce destiné à l'être humain, aux plantations, à la météo, ou sur autre chose que nous n'avons pas encore découvert? Et si ces tours avaient un effet sur le cerveau des moines, par exemple? Soyons fous. Si les vibrations émises, qu'elles soient optiques, électriques ou encore d'une autre sorte, étaient réglées pour améliorer les facultés spirituelles des moines? Mais encore, pourquoi les mettre dans des cimetières? Une première raison, tout comme les antennes pour téléphone mobile doivent être visibles devant vous et à une certaine distance pour fonctionner, et non au-dessus de votre tête, comme par exemple sur le toit de votre building, on peut imaginer que les tours devaient être situées à une certaine distance à l'horizontale, donc en dehors du monastère. Mais pourquoi le cimetière? Se pourrait-il qu'il ne fallût justement pas que des plantes poussent alentour pour ne pas entraver le processus électrique? Si dans un champ on constate qu'un circuit fermé se met en place, peut-être que dans un cimetière il se comporte autrement et que les vibrations émises par les tours s'en trouvent différentes. Tout ça, ce ne sont que des théories. Lors de notre interview avec John Kakenbos, il nous a parlé d'un certain Peter Tompkins qui a écrit Secret of the Soil. Ce livre parle de solutions alternatives de culture pour sauver notre planète. Peter était venu voir John à l'époque car il voulait faire un article sur ses répliques des tours d'Irlande. John nous souffle alors que ce même Peter avait été un des plus fameux agents secrets de son époque, membre de l'OSS, l'ancêtre de la CIA. Il serait même à la base du Kryptos. Vous savez, le Kryptos est une sculpture étrange contenant un message secret. Elle est située dans la cour intérieure du quartier général de la CIA. Et la sculpture se compose de trois parties. Des milliers de personnes ont déjà cherché à comprendre le message. Aujourd'hui, deux de ces parties ont été déchiffrées. L'une parle d'extraterrestres et l'autre des mystères de l'Égypte. Il s'avère que Peter a aussi écrit « Secret of the Great Pyramid and the Magic of Obelisk ». Comme par hasard, la sculpture située à l'anglais possède un axe visant droit vers l'obélisque de Washington. Après nous avoir mis sur la piste de ce code et des travaux de Peter, John continue et nous parle spontanément de Joseph Monagle. Il se trouve que ce Joseph est un ex-membre du projet Stargate. Et pour ceux qui ne le savent pas, le projet Stargate se consacrait à améliorer les performances humaines dans le domaine de la vision à distance, le « remote viewing », ou d'une manière plus globale, améliorer son intuition, sa capacité à voir dans le futur, et dit encore autrement en communiquer avec Dieu. Et pauvre, et nous voici de retour aux moines et aux tourondes d'Irlande. Et si c'était ça le secret des tours? Soyons fous. Allez, je vous laisse à vos méditations. On fait une pause musicale.
Bye.
Eh oui, vous êtes bien sur CFM Radio 90.2 dans l'émission Au plus profond des ondes. Passons maintenant de la littérature. Une nouvelle de Roald Dahl, Coup de gigot. Dans ses rideaux tirés, la chambre était chaude et propre. Les deux lampes éclairaient deux fauteuils qui se faisaient face et dont l'un était vide. Sur le buffet, il y avait deux grands verres, du whisky, de l'eau gazeuse et un seau plein de cubes de glace. Mary Maloney attendait le retour de son mari. Elle regardait souvent la pendule, mais elle le faisait sans anxiété, uniquement pour le plaisir de voir approcher la minute de son arrivée. Son visage souriait. Chacun de ses gestes paraissait plein de sérénité. Penchée sur son ouvrage, elle était d'un calme étonnant. Son teint, car c'était le sixième mois de sa grossesse, était devenu merveilleusement transparent. Les lèvres étaient douces et les yeux, au regard placide, semblaient plus grands et plus sombres que jamais. À 5h05, elle se mit à écouter plus attentivement et au bout de quelques instants, exactement comme tous les jours, elle attendit le bruit des roues sur le gravier. La porte de la voiture claqua. Les pas résonnèrent sous la fenêtre, la clé tourna dans la serrure. Elle posa son ouvrage, se leva et alla au-devant de lui pour l'embrasser. « Bonjour, chérie, » dit-elle. « Bonjour, » répondit-il. Elle lui prit son pardessus et le rangea. Puis elle passa dans la chambre et prépara le whisky, un fort pour lui, un faible pour elle. De retour dans son fauteuil, elle se remit à coudre, tandis que lui, dans l'autre fauteuil, tenait son verre à deux mains. Le secouant en faisant teinter les petits cubes de glace contre la paroi. Pour elle, c'était toujours un moment heureux de la journée. Elle savait qu'il n'aimait pas beaucoup parler avant d'avoir fini son premier verre. Elle-même se contentait de rester tranquille, se réjouissant de sa compagnie après les longues heures de solitude. La présence de cet homme était pour elle comme un bain de soleil. Elle aimait par-dessus tout sa mâle chaleur, sa façon nonchalante de se tenir sur sa chaise, sa façon de pousser une porte, de traverser une pièce à grands pas. Elle aimait sentir se poser sur elle son regard grave et lointain. Elle aimait la courbe amusante de sa bouche et surtout cette façon de ne pas se plaindre de sa fatigue, de demeurer silencieux, le verre à la main. « Fatigué, chérie ?»« Oui, dit-il, je suis fatigué. » Puis il fit une chose inhabituelle. Il leva son verre à moitié plein et avala tout le contenu. Elle ne l'épiait pas réellement, mais le bruit des cubes de glace retombant au fond du verre vide retint son attention. Au bout de quelques secondes, il se leva pour aller se verser un autre whisky. « Ne bouge pas, j'y vais, » s'écria-t-elle en sautant sur ses pieds. « Rassieds-toi, » dit-il. Lorsqu'il revint, elle remarqua que son second whisky était couleur d'ambre foncé. « Chérie, veux-tu que j'aille chercher tes pantoufles ?»« Non. » Il se mit à siroter son whisky. Le liquide était si fortement alcoolisé qu'elle put y voir monter les petites bulles huileuses. « C'est tout de même scandaleux, » dit-elle, « qu'un policier de ton rang soit obligé de rester debout toute la journée. » Comme il ne répondait pas, elle baissa la tête et se remit à coudre. Mais chaque fois qu'il buvait une gorgée, elle entendait le tintement des cubes de glace contre la paroi du verre. « Chérie, » dit-elle, « veux-tu un peu de fromage ? Je n'ai pas préparé de dîner puisque c'est jeudi. »« Non, » dit-il. « Si tu es trop fatigué pour dîner dehors, » reprit-elle, « il n'est pas trop tard. Il y a de la viande dans le réfrigérateur. Tu pourrais manger ici même sans quitter ton fauteuil. » Ses yeux attendirent une réponse, un sourire, un petit signe quelconque, mais il demeura inflexible. « De toute façon, » dit-elle, « je vais commencer par t'apporter du fromage et des gâteaux secs. »« Je n'y tiens pas, » dit-il. Elle s'agita dans son fauteuil, ses grands yeux toujours posés sur lui. « Mais tu dois dîner. Je peux tout préparer ici. Je serai très contente de le faire. Nous pourrions manger du rôti d'agneau ou du porc. « Ce que tu voudras, tout est dans le réfrigérateur. »« N'y pense plus, » dit-il. « Mais chérie, il faut que tu manges. Je vais préparer le dîner, et puis tu mangeras ou tu ne mangeras pas, ce sera comme tu voudras. » Elle se leva et posa son ouvrage sur la table près de la lampe. « Assieds-toi, dit-il. J'en ai pour une minute. Assieds-toi. » C'est alors seulement qu'elle commença à s'inquiéter. « Assieds-toi, répéta-t-il. » Elle se laissa retomber lentement dans son fauteuil, ses grands yeux étonnés toujours fixés sur lui. Il avait fini son second whisky et regardait le fond de son verre vide en fronçant les sourcils. « Écoute, dit-il, j'ai quelque chose à te dire. » « Quoi donc, chérie? Qu'y a-t-il ?» À présent, il se tenait absolument immobile, la tête penchée en avant. La lampe éclairait la partie supérieure de son visage, laissant la bouche et le menton dans l'ombre. Elle remarqua le frémissement d'un petit muscle près du coin de son œil gauche. « Je crains que cela te fasse un petit choc, » dit-il. « Mais j'ai longuement réfléchi pour conclure que la seule chose à faire, c'était de te dire la vérité. » J'espère que tu ne me blâmeras pas trop. » Et il lui dit ce qu'il avait à lui dire. Ce ne fut pas long, 4 ou 5 minutes au plus. Pendant son récit, elle demeura assise, saisie d'une sourde horreur. Elle le vit s'éloigner un peu plus à chaque mot qu'il prononçait. « Voilà, c'est ainsi, » conclut-il. « Et je sais que je te fais passer un mauvais moment. » Mais il n'y avait pas d'autre solution. Naturellement, je te donnerai de l'argent et je ferai le nécessaire pour que tu ne manques de rien. Inutile de faire des histoires. J'espère qu'il n'y en aura pas. Ça ne faciliterait pas ma tâche. Sa première réaction était de ne pas y croire. Tout cela ne pouvait être vrai. Il n'avait rien dit de tout cela. C'est elle qui avait dû tout imaginer. Peut-être, en refusant d'y croire, en faisant semblant de n'avoir rien entendu, se réveillerait-elle de ce cauchemar et tout rentrerait dans l'ordre. Elle eut la force de dire « Je vais préparer le dîner. » Et cette fois, il ne la retint pas. En traversant la pièce, elle eut l'impression que ses pieds ne touchaient pas le sol. Elle ne ressentit rien, rien excepté une légère nausée. Tout était devenu automatique, les marches qui la conduisaient à la cave, l'électricité, le réfrigérateur. Sa main qui plongea pour attraper l'objet le plus proche, elle le sortit, le regarda, il était enveloppé. Elle retira le papier. C'était un gigot d'agneau. Bien, il y aurait du gigot pour dîner. Tenant à deux mains le bout de l'os, elle remonta les marches. Et lorsqu'elle traversa la salle de séjour, elle aperçut son mari le dos debout devant la fenêtre. Elle s'arrêta. « Pour l'amour de Dieu, dit-il sans se retourner, ne prépare rien pour moi, je sors. » Alors, Mary Maloney fit simplement quelques pas vers lui et sans attendre, elle leva le gros gigot aussi haut qu'elle put au-dessus du crâne de son mari, puis cogna de toutes ses forces. Elle aurait pu aussi bien l'assommer d'un coup de massue. Elle recula. Il demeura miraculeusement debout pendant quelques secondes, en titubant un peu, puis il s'écroula sur le tapis. Dans sa chute, qui fut violente, il entraîna un guéridon. Le tintamarre aida Mary Maloney à sortir de son état de demi-inconscience, à reprendre contact avec la réalité. Étonnée et frissonnante, serrant toujours de ses deux mains son ridicule gigot, elle contempla le corps. « Ça y est, se dit-elle, je l'ai tué. » Son esprit était devenu soudain extraordinairement clair. Épouse de détective, elle savait très bien quelle peine elle risquait. Cela ne l'inquiétait nullement. Cela serait plutôt un soulagement. Mais l'enfant qu'elle attendait, que faisait la loi d'une meurtrière enceinte? Tuait-on les deux, la mère et l'enfant? Ou bien attendait-on la naissance? Comment procédait-on? Mary Maloney n'en savait rien. Elle était loin de s'en faire une idée. Elle alla dans sa cuisine, alluma le four et mit le gigot à rôtir. Puis elle se lava les mains et monta dans sa chambre en courant. Là, elle s'assit devant sa coiffeuse, se donna un coup de peigne, se repoudra et mit un peu de rouge à lèvres. Elle tenta de sourire. Le résultat fut lamentable. Elle fit une nouvelle tentative. « Bonjour, Sam, » dit-elle joyeusement à haute voix. La voix comme le sourire lui parut dépourvue de naturel. « Pourriez-vous me donner quelques pommes de terre et puis une boîte de petits pois ?» Cela allait mieux, pour le sourire et pour la voix. Elle répéta plusieurs fois son petit texte. Puis elle descendit, prit son manteau, sortit par la petite porte, traversa le jardin pour se retrouver dans la rue. Il n'était pas tout à fait 6 heures et l'épicerie était encore éclairée. « Bonsoir, Sam, » dit-elle joyeusement à l'homme qui se trouvait derrière le comptoir. « Bonsoir, Madame Maloney. Comment allez-vous? Pourriez-vous me donner quelques pommes de terre et puis une boîte de petits pois ?» L'homme lui tourna le dos pour descendre du rayon la boîte de petits pois. Patrick a décidé de ne pas sortir ce soir. Il est trop fatigué, dit-elle. D'habitude, nous sortons le jeudi soir, vous savez bien, et je m'aperçois que je n'ai pas de légumes à la maison. Et de la viande, Madame Maloney, vous n'en prenez pas? Non, merci, j'ai un beau gigot congelé. Ah! Au fond, je n'aime pas tellement faire cuire de la viande congelée, Sam. Cette fois-ci, je vais essayer, qu'en pensez-vous? Personnellement, dit le commerçant, je ne crois pas qu'il y ait une différence. Voulez-vous de ces pommes de terre de l'Idaho? Ah oui, ça irait très bien. Et avec ça, demanda l'épicier en souriant. Comme dessert. Qu'allez-vous lui donner comme dessert? Eh bien, que me conseillez-vous, Sam? L'épicier passa en revue ses rayons. Ce beau gâteau au fromage, par exemple. Je crois savoir qu'il aime ça. Parfait, dit-elle. Il adore le gâteau au fromage. Puis, après avoir payé, elle dit avec un sourire radieux « Merci, Sam. Bonsoir. »« Bonsoir, Madame Maloney. Et merci. » Dans la rue, elle le pressa le pas. Elle se dit qu'elle allait retrouver son mari qui l'attendait à la maison. Elle se dit encore qu'il fallait bien réussir le dîner parce que le pauvre homme était fatigué. Alors, si en rentrant, elle allait trouver quelque chose d'insolite, de tragique ou d'épouvantable, elle serait tout naturellement bouleversée. Elle deviendrait folle de chagrin et de terreur. Elle rentrait chez elle simplement, comme n'importe quel autre jour, après avoir fait ses provisions. C'est Madame Maloney qui vient d'acheter des légumes et qui rentre à la maison un jeudi soir. Elle rentre chez elle où l'attend son mari. Elle va préparer un bon repas. C'est la seule chose à faire, se dit-elle. Me conduire avec naturel et simplicité. Être naturel. Comme ça, pas besoin de jouer la comédie. C'est donc en fredonnant un air joyeux, un petit air joyeux, qu'elle entra dans sa cuisine par la petite porte. « Patrick !» cria-t-elle, « j'arrive !» Elle posa son paquet sur la table et passa dans la salle de séjour. Et lorsqu'elle le vit tendu par terre, les jambes en bataille, un bras replié, ce fut réellement un choc assez violent. Elle sentit rejaillir en elle tout un torrent d'amour perdu, de tendresse ancienne. Elle courut vers le corps, tomba à genoux et se mit à pleurer à chaudes larmes. C'était facile. Pas nécessaire de jouer la comédie. Au bout de quelques minutes, elle se leva et alla au téléphone. Elle savait par cœur le numéro du poste de police. Et lorsqu'elle entendit une voix au bout du fil, elle dit en pleurant « Venez vite, Patrick est mort. » « Qui est à l'appareil ?»« C'est Madame Maloney, la femme de Patrick Maloney. » « Vous voulez dire que Patrick est mort ?»« Je le pense, » sanglota-t-elle. « Il était entendu par terre et je crois qu'il est mort. » « On arrive, » dit la voix. Le car arriva en effet très vite, et lorsqu'elle ouvrit la grande porte, elle tomba tout droit dans les bras de Jack Newman, en pleurant avec hystérie. Il aida gentiment à s'asseoir sur sa chaise, puis alla rejoindre son collègue qui venait de s'agenouiller près du corps. « Est-il mort ?» pleura Mary. « Je le crains. Que s'est-il passé ?» Elle raconta brièvement qu'elle était descendue chez l'épicier et qu'elle avait trouvé Patrick étendu par terre en rentrant. En écoutant son récit coupé de sanglots, Noonan découvrit une paillette de sang gelé sur les cheveux du mort. Il la montra aussitôt à O'Malley, qui se leva et courut au téléphone. Peu après, d'autres hommes envahirent la maison, un médecin puis deux détectives. Mary en connaissait un de nom. Le photographe de la police arriva et prit des clichés. Ensuite, ce fut le tour de l'expert chargé de prendre les empreintes digitales. Il y eut de longs chuchotements autour du cadavre et Mary dut répondre à d'innombrables questions. Mais tout le monde la traita avec beaucoup de gentillesse. Il fallut qu'elle racontât de nouveau son histoire depuis le début. L'arrivée de Patrick alors qu'elle était assise dans son fauteuil en cousant. Il était fatigué, si fatigué qu'il n'avait pas eu envie de dîner dehors. Elle raconta comment elle avait mis le gigot au four. Qui est toujours et comme elle était descendue chez l'épicier, et comment, en rentrant, elle avait trouvé son époux gisant sur le tapis. « Quel épicier ?» demanda l'un des détectives. Elle lui dit, et il parla à voix basse à l'autre détective qui, aussitôt, quitta la maison. Il revint au bout d'une quinzaine de minutes avec une page de notes. Il y eut d'autres chuchotements et à travers ses sanglots, elle put capter des bribes de phrases. Comportement absolument normal, très enjoué, voulait lui préparer un bon dîner, petit pois, gâteau au fromage. Impossible qu'elle... Un peu plus tard, le photographe et le docteur prirent congé. Deux autres policiers firent leur entrée pour emporter le corps sur un brancard. Puis l'homme aux empreintes digitales se retira à son tour. Les deux détectives restèrent ainsi que les deux agents. Ils étaient tous remarquablement gentils et Jacques Noonan voulut savoir si Mary n'avait pas envie de quitter la maison, d'aller par exemple chez sa sœur ou peut-être chez sa femme. À lui qui prendrait soin d'elle et qui l'accueillerait volontiers pour la nuit. Non, dit-elle. Elle lui expliqua qu'elle ne se sentait pas la force de bouger. Qu'elle aimerait mieux rester où elle était pour l'instant, qu'elle ne se sentait pas bien du tout. Jacques Noonan lui demanda alors si elle ne voulait pas se mettre au lit. Non, répondit-elle, elle préférait rester dans son fauteuil. Un peu plus tard, peut-être, quand elle se sentirait mieux, elle prendrait une décision. Ainsi, ils l'abandonnèrent dans son fauteuil pour aller fouiller la maison. Mais, de temps à autre, l'un des détectives revenait pour lui poser une question. Jacques Noonan revint à son tour et lui parla doucement. Son mari, lui dit-il, avait été tué d'un coup violent sur le crâne administré à l'aide d'un instrument lourd et contondant, probablement en métal. Ils étaient actuellement à la recherche de cet objet. L'assassin avait pu l'emporter avec lui, mais il avait pu aussi bien s'en débarrasser sur les lieux. « C'est une vieille histoire, dit-il. Trouvez l'arme et vous tenez le bonhomme. » Plus tard, l'un des détectives remonta de la cave et vint s'asseoir près d'elle. Il lui demanda si, à sa connaissance, il existait dans la maison un objet ayant pu servir d'arme. Et si cela ne l'ennuyait pas, d'aller voir s'il ne manquait rien, une grosse clé anglaise, par exemple, ou un vase de métal. Elle lui dit qu'elle n'avait jamais eu de vase de métal et une clé anglaise. Elle ne pensait pas en avoir, à moins qu'il n'y eût une au garage, mais... Visiblement, elle était très embêtée. Les recherches reprirent. Elle savait que d'autres policiers se trouvaient au jardin, tout autour de la maison. Elle entendait le gravier grincer sous leurs pas, et de temps à autre, elle entrevoyait la lueur de leurs torches par une fente du rideau. Il était tard, près de 9 heures. Après tant de vaines recherches, les quatre policiers parurent un peu exaspérés. « Jack, dit-elle, lorsqu'elle vit entrer le sergent Noonan, auriez-vous la gentillesse de me donner à boire ?» « Mais certainement, c'est du whisky que vous voudriez. »« Oh oui, s'il vous plaît, mais très peu, rien qu'un doigt. »« Je me sentirai peut-être mieux après. » Il lui tendit le verre. « Pourquoi n'en prenez-vous pas vous-même » dit-elle. « Vous devez être terriblement fatigué. » « C'est que, fit-il, ce ne serait pas strictement régulier. »« Mais j'en prendrai bien une goutte pour rester en forme. » Un autre homme entra. Après quelques encouragements, ils étaient tous là debout, tenant gauchement leur verre à la main. Intimidé par la présence de la veuve, il s'efforçait de prononcer des mots réconfortants. Puis le sergent Noonan alla faire un tour à la cuisine. Il revint aussitôt et dit « Vous savez, Madame Maloney, votre four est toujours allumé et la viande est dedans. »« Oh mon Dieu !» s'écria-t-elle, « c'est vrai. Voulez-vous que j'aille l'éteindre ? Vous seriez très gentil, Jack, merci mille fois. » Lorsque le sergent Noonan revint pour la seconde fois, elle leva sur lui ses grands yeux sombres et mouillés. « Jack Noonan, dit-elle. Oui, voulez-vous me rendre un petit service, vous et vos collègues ?»« Certainement, Madame Maloney. »« Eh bien, dit-elle, vous êtes tous des amis de mon pauvre Patrick, et vous êtes ici pour m'aider à trouver son assassin. Vous devez avoir faim, après tant d'heures supplémentaires, et je sais que mon pauvre Patrick ne me pardonnerait jamais de vous recevoir ici sans rien vous offrir. Pourquoi ne mangeriez-vous pas le gigot qui est au four ?» Il doit être cuit à point. Impossible d'accepter, bredouilla Jacques Noonan. S'il vous plaît, supplia-t-elle, faites-le pour moi. Moi-même, par question que je touche à quoi que ce soit, tout me fait trop penser à lui. Mais vous, c'est différent. Vous m'aurez rendu un immense service. Et ensuite, vous pourrez vous remettre au travail. Les quatre policiers eurent un long moment d'hésitation, mais comme ils mouraient tous de faim, ils finirent par se laisser convaincre et se rendirent à la cuisine pour attaquer le gigot. La jeune femme demeura à sa place, ce qui lui permit de les écouter par la porte entrouverte. Elle put ainsi les entendre parler, la bouche pleine de leur grosse voix pâteuse. « Un autre morceau, Charlie ? Non, vaut mieux ne pas tout manger. »« Elle veut qu'on mange tout, c'est ce qu'elle a dit. Ça lui rend service. »« Bon, si ça lui rend service, passe au moins encore un petit bout. » Qu'est-ce qu'a bien pu avoir comme gourdin le type qu'a bousillé le pauvre Patrick ? Dit l'un d'eux. Le toubib dit qu'il a une partie du crâne en miettes, comme broyé à coups de marteau. Bon, on finira bien par trouver. C'est ce que je pense aussi. Qui que ce soit, il n'a pas pu aller loin avec son truc. Un truc comme ça, on ne le trimballe jamais plus longtemps qu'il ne le faut. L'un d'eux éructa. À mon avis, la chose doit se trouver ici, sur les lieux mêmes. Probablement. Nous devons l'avoir sous le nez. Tu ne crois pas, Jack ? Dans la pièce voisine, Mary Maloney se mit à ricaner. Merci pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.
I used to live in a room full of mirrors. All I could see was me. And I took my spirit and I smashed my mirror. And now the whole world is here for me to see. Now the whole world is here for me to see. Was all in my head, jangling, breaking grass all in my brain. Broken glass was all in my head. It used to follow my dreams and cut me in my bed. It used to follow my dreams and cut me in my bed. It used to mess up all my loving in my bed. Stay and clap, or either leave anytime you want to, you know, or either clap, whichever you want to do. We'll be right back.